France Inter.
Le 13-14, Jérôme Cadet.
Bonjour à tous et bienvenue au sommaire aujourd'hui. Un 13-14 au cœur de la forêt.
On voit des chênes, un petit peu de hêtre, bon, on voit quelques touffes de noisetiers.
Là, on a du sorbier des oiseleurs, énormément de châtaigniers. La forêt est magnifique. Il y a un sens à essayer de la protéger, de vivre avec.
En pleine conférence sur le climat, nous vous parlons de nos forêts. Pour cela, nous avons choisi le Tarn, territoire confronté lui aussi au défi du réchauffement avec ses insectes qui s'attaquent aux résineux.
Au centre d'une attaque de typographe, on peut aussi dire postriche ou scolite, et on les voit en train de dévorer ces arbres qui sont devant nous.
Nos forêts sont un atout pour stocker le carbone, mais elles sont aussi en danger avec la hausse des températures. Comment les protéger et les exploiter? Nous nous posons ces questions avec nos invités et nos reportages en direct de la Bastide Rouyroux. Sans oublier l'actualité de ce jeudi, c'est avec vous Céline Asselot. Bonjour Céline.
Bonjour Jérôme.
À commencer par ces deux ministres à Marseille.
Oui, Gérald Darmanin et Laurent Nunez à la rencontre des enquêteurs, des magistrats qui luttent contre le narcotrafic. On ira sur place. On entendra aussi Amine Kessassi qui appelle à des rassemblements samedi en mémoire de son frère assassiné. Car on ne peut pas tuer tout un peuple, dit-il sur France Inter. On parlera aussi de ce plan de paix pour l'Ukraine présenté par les États-Unis, mais qui reprend de très nombreuses exigences du Kremlin. Suivre également le marché immobilier qui montre des signes de reprise. Et puis le maire d'Angoulême qui demande à son tour pour l'annulation de la prochaine édition du Festival de bande dessinée.
Et puis juste avant 14h, notre coup de cœur pour un luthier du Tarn qui crée des guitares exceptionnelles avec évidemment du bois local. Voilà, vous avez le programme. Merci de passer cette heure avec nous.
France Inter.
La Bastide Rouyroux ou Rouyroux, on peut dire les deux. À une vingtaine de kilomètres de Mazamet, nous sommes à la limite des départements du Tarn et de l'Hérault, région montagneuse. La montagne noire est juste de l'autre côté de la vallée. C'est un pays d'eau, vous l'entendez derrière le micro de France Inter, il y a beaucoup de sources, vous l'entendez. Et c'est un pays d'arbres tout autour de nous, je suis en pleine forêt avec l'un de nos invités du jour. Bonjour Mathias Bonneau.
Bonjour Jérôme.
Merci d'être là, de nous accueillir dans votre Tarn. Vous êtes bûcheron, vous êtes aussi écrivain, vous êtes un drôle d'oiseau. Vous racontez dans vos livres votre quotidien de forestier. Le dernier s'intitule Bûcheron. Est-ce que vous pouvez nous décrire, Mathias, le paysage qui est autour de nous?
Oui, alors ça me fait plaisir d'être là parce que c'est une forêt qui ressemble à celle où dans laquelle j'ai joué quand j'étais petit. Donc on est au bord d'un ruisseau, un ruisseau moussu, l'eau est claire. Et partout autour, donc derrière nous, c'est plutôt un taillis de châtaigniers, il y a du lierre, des houx. Voilà. Moi, j'aime beaucoup ces ambiances-là, un peu humides, un peu fraîches.
Très agréable. 7 degrés aujourd'hui ici à la Bastide Rouyroux sur les hauteurs. Vous êtes originaire d'ici, Mathias, je l'ai dit, vous avez fait des études d'architecture et puis vous avez eu envie de tout changer pour devenir bûcheron. Vous dites, j'ai attrapé le virus de la forêt.
C'est vrai que ça ressemble à un virus un peu, et ça a commencé très tôt quand j'étais petit. Je bûcheronnais déjà avec mon papa dans des forêts qui ressemblent à celles qui est autour de nous. Et
vous avez eu envie de travailler ici finalement. Cette forêt vous a happé, vous a rattrapé.
Effectivement, ouais. J'ai voulu partir de cet endroit-là parce que c'est quand même une vie difficile, celle de bûcheron. Mais en fait, après mes études, je me suis dit non, c'est là que je suis, c'est là qu'est ma vie, et donc j'ai décidé d'être bûcheron une bonne fois pour toutes.
Donc bûcheron tous les jours dans la forêt que votre grand-père a plantée à quelques kilomètres d'ici, c'était il y a 60 ans. Elle souffre aujourd'hui cette forêt. L'Office national des forêts nous dit que la mortalité des arbres en France a été multipliée par 2 en 10 ans. Est-ce que vous le constatez?
Oui, alors après, c'est vrai que moi je suis arrivé à un état de la forêt où, en fait, j'ai toujours connu la forêt menacée de disparition. Quoi. Dès que je suis arrivé au moment où il y avait les plus gros coups, les coups de vent, les insectes et les attaques des insectes.
Il y a une dizaine d'années.
Voilà, il y a une dizaine d'années quand j'ai commencé à être bûcheron.
Et donc ça, c'est une inquiétude pour vous?
C'est une inquiétude, mais en même temps, je suis né avec ça. Et je sais que ma carrière de forestier va faire avec des forêts qui meurent.
C'est le défi de demain. On va s'avancer dans ce chemin avec évidemment les feuilles mortes. Vous essayez de préparer votre forêt au défi du réchauffement climatique. On n'a pas toutes les réponses, Mathias, faut bien le dire. On va en parler ensemble avec nos invités dans les prochaines minutes que nous allons retrouver au bout de ce chemin, au lieu dit la Bourriotte. Avant cela, avec vous, Céline Asselot, toute l'actualité de ce jeudi. On commence évidemment par le gouvernement qui communique face au narcotrafic.
Oui, avec 2 ministres en déplacement aujourd'hui à Marseille, une semaine après l'assassinat du jeune frère du militant Amine Kessassi. Bonjour Mathilde Vinceneux.
Bonjour.
Vous êtes sur place pour France Inter, Laurent Nunez pour l'Intérieur, Gérald Darmanin pour la Justice, tous les deux arrivés ce matin à Marseille pour rencontrer des magistrats, des enquêteurs, des policiers, finalement tous ceux qui sont en première ligne face au trafic.
Oui, les deux ministres sont en ce moment même à la préfecture pour une réunion de travail sur la criminalité organisée, en présence du président du tribunal et du procureur de Marseille notamment, mais aussi des enquêteurs, des policiers. Ce matin, le garde des Sceaux, Gérald Darmanin, s'est également rendu à la prison des Baumettes, où, rappelons-le, la directrice et l'un de ses adjoints avaient dû quitter leur poste il y a un an après avoir été menacés de mort par un détenu lié à la DZ Mafia. Cet après-midi, les deux ministres vont aussi rencontrer la famille de Mehdi Kessassi. Si le jeune homme de 20 ans abattu il y a une semaine, assassiné pour rien, martèle son grand frère, le militant Amin Kessassi. Mais avant cette rencontre, Gérald Darmanin et Laurent Nunez doivent prendre la parole devant les journalistes. Ce sera dans quelques minutes. Y aura-t-il des annonces alors qu'une loi sur le narcotrafic a déjà été adoptée, qu'un parquet anti-criminalité organisée doit bientôt voir le jour? Le maire de Marseille, Benoît Payan, réclame lui davantage de moyens, magistrats et policiers. Des policiers qui, malgré les renforts des dernières années, sont moins nombreux à Marseille qu'avant l'arrivée d'Emmanuel Macron à l'Élysée en 2017, selon un rapport de la Cour des comptes.
C'est donc un déplacement que l'on suit grâce à vous. Merci Mathilde Vinceneux en direct de Marseille avec les moyens techniques de Gilles Gallinaro. Marseille, où une marche blanche donc sera organisée samedi en hommage à Mehdi Kessassi, alors que la justice privilégie la piste d'un crime d'intimidation. C'est le haut du spectre de la criminalité organisée qui est suspecté, selon la procureure en charge de l'enquête interrogée sur France Info, mais pas question de céder ni à la peur ni à la menace. Pour son grand frère, le militant anti-trafic Amin Kessassi, qui était ce matin l'invité de France Inter et qui appelle à se rassembler samedi pour se souvenir, dit-il, et pour faire barrage.
Si on appelle à se mobiliser, c'est que toutes les conditions de sécurité sont réunies. Sinon, moi, je ne prendrais pas le risque de faire marcher des gens et leur demander de se mobiliser. Un certain nombre de personnalités nationales seront présents à Marseille. Ce que je veux dire aux gens qui sont loin de Marseille, c'est que partout, vous pouvez vous mobiliser. Partout, devant vos mairies, vous pouvez tenir une minute de silence. Partout, vous pouvez partager. Partout, vous pouvez vous mobiliser en parlant de Mehdi, en racontant son histoire, en racontant qui il était. Et puis surtout, celles et ceux qui seraient inquiets, je leur dis, je suis debout. On ne peut pas tuer tout un peuple, on ne peut pas tuer toute une nation. Et plus on sera nombreux, plus notre sécurité sera garantie à toutes et tous.
Je suis debout, dit Amin Kessassi. C'était ce matin au micro de Benjamin Duhamel sur France Inter. Emmanuel Macron lui entame une tournée en Afrique avec l'ambition de construire de nouveaux liens alors que l'influence française recule sur le continent. Avant l'Afrique du Sud, le chef de l'État est aujourd'hui sur l'île Maurice. Quant à Sébastien Lecornu, sa mission du jour sera de rassurer des maires inquiets par le contexte politique et budgétaire. Le Premier ministre se remporte de Versailles où sa chef cet après-midi le congrès des maires de France, des maires qui ont également reçu la visite cette semaine du chef d'état-major des armées. C'est le plus haut gradé de l'armée française, le général Fabien Mandon, venu parler réarmement, situation géopolitique, dans un discours qui depuis suscite beaucoup de réactions. On va le voir avec vous. Bonjour Julien Nenny.
Bonjour Céline.
Car le numéro 1 de l'armée estime, écoutez, qu'il faut se tenir prêt à un choc contre la Russie dans les 3-4 prochaines années.
Si notre pays flanche parce qu'il n'est pas prêt à accepter de perdre ses enfants, parce qu'il faut, dire les choses, de souffrir économiquement parce que les priorités iront à de la production de défense, par exemple. Si on n'est pas prêt à ça, alors on est en risque.
C'est donc une parole étonnante, Julien Nenny, dans un cadre plutôt inhabituel. On sent que la classe politique est saisie par les propos du chef d'état-major.
Oui, c'est par exemple Jean-Luc Mélenchon pour LFI qui dénonce, je cite, des préparations guerrières décidées par personne. C'est Sébastien Chenu pour le RN qui estime que le chef d'état-major n'a aucune légitimité pour affoler les Français. Et ce sont même certains alliés du président, comme Christian Estrosi, qui qualifie ce matin d'acte de faiblesse les propos que vous venez d'entendre de Fabien Mandon. À l'Élysée, officiellement pas de commentaires, mais autour d'Emmanuel Macron, chef des armées et donc supérieur direct de Fabien Mandon, on défend globalement le chef d'état-major et son discours qui aurait été sorti de son contexte. Il n'a pas dit « envoyez vos enfants à la guerre », s'agace un proche du président. Il était en train de rappeler l'état de la menace comme un chef de guerre qui parle de guerre, fin de citation. Un autre décrit la réalité de la fonction. Quand tu es chef d'état-major, tu vis chaque jour avec l'angoisse, car tu diriges de jeunes gens qui risquent leur vie. Et de rappeler ce chiffre, depuis 2017, ce sont 58 militaires français Français qui sont morts en opération extérieure. Reste que ce discours de Fabien Mandon n'intervient pas n'importe quand. Emmanuel Macron doit annoncer prochainement, peut-être avant la fin de l'année, les détails de son service national volontaire avec un objectif, mobiliser jusqu'à 10 000 jeunes majeurs par an.
Le décryptage de Julien Nenny, service politique de France Inter. Et pendant que l'armée française s'inquiète donc, on vient de l'entendre, de voir la guerre en Ukraine se généraliser sur le continent, voilà qu'une nouvelle proposition de paix vient d'arriver sur le bureau de Volodymyr Zelensky en provenance des États-Unis. Le plan reprend de nombreuses exigences de la Russie, qui est appelée à reconnaître l'annexion de la Crimée, à réduire son armée de moitié. Les Européens dénoncent une proposition de paix en forme de capitulation. Mais on peut aussi s'interroger sur cette nouvelle tentative diplomatique, alors que les États-Unis avaient durci le ton ces dernières semaines contre le Kremlin. Bonjour Sylvain Tronchet.
Bonjour Céline.
Vous êtes correspondant de France Inter en Russie. Finalement, on se demande, Sylvain, à quoi jouent Moscou et Washington ?
Oui, difficile de comprendre la stratégie de Washington qui, d'un côté, prend des sanctions réelles sur le pétrole russe et d'un autre, valide un plan totalement à l'avantage de Moscou. Difficile de comprendre le discours du Kremlin qui fait ce matin comme s'il n'avait été impliqué dans rien et dit qu'il n'a rien à dire. C'est peut-être parce que ce plan a été négocié par un homme qui s'appelle Kirill Dmitriev. Ça n'est pas un diplomate, c'est le PDG du Fonds souverain russe, c'est l'envoyé spécial de Vladimir Poutine pour les investissements officiellement, mais il a pris de l'importance ces derniers mois. Il a un accès direct au président, il est capable de passer outre les circuits habituels. Dmitriev est libre d'aller et venir entre la Russie et les États-Unis. C'est là qu'il a rencontré Steve Witkoff, l'envoyé spécial de Donald Trump, qu'il connaît bien, et apparemment il a réussi à le convaincre que les Ukrainiens étaient aux abois et qu'ils n'avaient pas d'autre choix que d'accepter ce plan. Ensuite, c'est ce même Dmitriev qui a fait fuiter l'information dans la presse américaine, prenant tout le monde de court. On ne peut pas imaginer qu'il ait fait tout cela sans l'aval du Kremlin. Mais du coup, la pression revient sur Kiev et Moscou a encore gagné un peu de temps.
Et tout cela, merci Sylvain Tronchet, intervient au lendemain d'une frappe particulièrement meurtrière menée par la Russie sur la ville de Ternopil, dans l'ouest de l'Ukraine. 26 morts, 90 blessés et 22 personnes toujours portées disparues. Nos sauveteurs ont travaillé toute la nuit et les opérations de recherche se poursuivent, indique Volodymyr Zelensky. Et puis de nouvelles frappes israéliennes ont visé ce matin la bande de Gaza, où la défense civile fait état de 4 morts et d'une quinzaine de blessés dans une habitation au sud du territoire palestinien. L'armée israélienne dit vouloir démanteler des infrastructures terroristes. Le Qatar, qui avait joué un rôle de médiateur, dénonce de son côté une escalade dangereuse menaçant le cessez-le-feu. C'est sans doute l'un des Français les plus influents dans le monde de l'intelligence artificielle. Le chercheur Yann Lequin a annoncé son départ du groupe Meta, où il était responsable de recherche sur l'IA. Bonjour Stéphane Jourdain.
Bonjour Céline.
À 65 ans, il décide de lancer sa propre start-up et c'est le signe d'un changement d'air chez Meta et même au sein de la Silicon Valley.
Oui, une page se tourne, celle de la recherche fondamentale dirigée par Yann Lequin, surnommé aux États-Unis le Godfather de l'IA, l'un des pères du deep learning sur lequel reposent toutes les IA modernes. Si votre voiture, grâce à son système de détection, freine automatiquement quand il y a un obstacle sur la route, c'est grâce à lui. Et depuis 12 ans, son laboratoire a vu passer des centaines de chercheurs, dont deux des trois fondateurs de l'IA tricolore Mistral. Bref, Yann Lequin, c'est un chercheur, pas un ingénieur. Il ne travaillait pas sur des produits IA pour WhatsApp ou Instagram. Or, c'est ce que veut maintenant Mark Zuckerberg. Des produits en ligne, convaincants, populaires, comme ChatGPT. Il vient d'ailleurs d'embaucher un de ses co-créateurs.
Et ce qui est intéressant de noter aussi, Stéphane, c'est qu'Yann Lequin est très critique vis-à-vis de ces IA génératives.
Oui, elles sont plus bêtes qu'un chat, c'est ce qu'il répète souvent, car elles ne comprennent rien au monde qui nous entoure. Écoutez-le à notre micro l'année dernière.
Je ne suis pas aussi optimiste que certains sur la rapidité des progrès. On est encore très loin de pouvoir reproduire l'intelligence humaine avec l'IA. Il nous manque des briques essentielles. Et donc je ne crois pas qu'on aura des systèmes aussi intelligents qu'un humain moyen l'année prochaine. Et même d'ici 5 ans, ce ne sera pas le cas.
Sa nouvelle start-up va travailler sur des modèles d'IA capables de comprendre le monde physique, ce qu'il appelle la prochaine révolution de l'IA, et qui passera, elle, par les robots.
Et vous viendrez nous en reparler, évidemment. Oui, merci plaisir. Stéphane Jourdain. Meta qui annonce par ailleurs se plier à la nouvelle loi votée en Australie, puisque le pays a décidé d'interdire les réseaux sociaux aux moins de 16 ans. L'accès à Instagram et Facebook sera donc bloqué pour tous les jeunes australiens à partir du 4 décembre prochain. Est-ce le bon moment pour acheter ou pour vendre son logement? Question qui taraude toujours les propriétaires et ceux qui rêvent de le devenir, alors que le marché immobilier recule depuis plusieurs années. Mais on voit dans les chiffres publiés ce matin par l'INSEE, bonjour Antoine Geoffin,
bonjour Céline,
des signes qui semblent confirmer la reprise.
Oui, déjà ce chiffre. En un an, dans toute la France, les prix des logements ont augmenté de 0,7%. Ce sont les appartements plutôt que les maisons qui portent cette augmentation. Pour le troisième trimestre consécutif, les prix sont à la hausse après 10 trimestres d'affilée de baisse. En tout, l'INSEE a compté 921 000 transactions immobilières depuis un an en France.
Mais cette tendance à la hausse légère, il faut le préciser, cache des disparités régionales.
Oui Céline, par exemple, l'augmentation des prix des logements est plus forte dans les Hauts-de-France, 2%, qu'en Auvergne-Rhône-Alpes ou en PACA, autour de 0,5% de plus. Et si on regarde les maisons, leur prix a baissé de 2,5% en petite couronne parisienne, quand sur un an, en région, elles sont plus chères de 0,4%. À ces chiffres de l'INSEE s'ajoutent ceux fournis par le site Particulier à Particulier, qui compte 11% d'acheteurs de plus en un an. Trois villes sortent du lot, Nantes, Montpellier et Marseille, dans cet ordre, entre 20 et 14% de plus. A l'inverse, les acquéreurs sont moins nombreux, de 5% à Lyon et de 2% à Bordeaux.
Et d'un mot Antoine, est-ce qu'on connaît les raisons de cette reprise?
Les taux d'intérêt qui tournent autour de 3,2% aujourd'hui, quand on était à 4,3% en moyenne fin 2023, rappelle PAP. Enfin, le site de petites annonces immobilières rassure que ce sont surtout les primo-accédants qui dynamisent aujourd'hui le marché de l'immobilier.
Antoine Geoffin, service économie. Le festival d'Angoulême aura-t-il lieu en janvier prochain? Voilà qui paraît de moins en moins probable. Jusqu'à présent, les organisateurs ont décidé de maintenir le rendez-vous malgré la polémique et le boycott des auteurs, des éditeurs qui dénoncent les dérives de la société organisatrice. Mais ce matin, nouvel épisode, ce sont les financeurs publics qui appellent à l'annulation de la prochaine édition, eux qui financent le festival de BD à hauteur de 50%. Écoutez le maire d'Angoulême, Xavier Bonnefond.
Nous formulons aujourd'hui un constat. D'abord, il nous apparaît plus que compliqué d'organiser le maintien de l'édition 2026. Pas de festival sans auteurice. Pas de festival sans éditrice et sans éditeur. Ce sont donc les auteuristes qui, avec leur maison d'édition, font le festival. Sans eux et sans festivaliers, pas de festival. Et sans festival, pas de subvention publique. Nous demandons donc à l'association du FIBD et à l'organisateur de tirer les conclusions que cette réalité impose.
Propos recueillis par François Demange de ici La Rochelle, ex-France Bleu. Mieux protéger les enfants des violences sexuelles, c'est l'un des objectifs de la Journée internationale des droits de l'enfant, organisée ce jeudi alors que les chiffres sont saisissants. Ainsi, selon des données issues du ministère de la Santé, plus de 600 bébés âgés de moins de 2 ans ont été accueillis l'année dernière dans des unités médico-judiciaires pour des faits de violences sexuelles. Alors pour aider les victimes, libérer la parole, pourquoi ne pas passer par le jeu vidéo? C'est le but de ce jeu Wednesdays, coproduit par Arte et le studio The Pixel Hunt, qui suit un jeune homme victime d'inceste sur le chemin de sa reconstruction. Et on pourrait presque le qualifier, Olivier Bénis, de jeu d'utilité publique.
Tous ceux qui y ont joué vous le diront, Wednesdays est un jeu à part. Autant par le sujet très dur qu'il aborde, les violences sexuelles sur mineurs, que par sa manière très douce de le traiter. Et depuis sa sortie en mars, ses créateurs reçoivent des messages par dizaines.
Ce qui était le plus touchant, c'était surtout la quantité de messages qu'on a reçus en privé souvent.
Pierre Corbinet, directeur créatif de Wednesdays.
De victimes de violences sexuelles sur mineurs qui disaient qu'il avait été important pour elles, pour eux, que le jeu les avait aidés à comprendre ce qui leur était arrivé. On a des gens qui nous ont raconté comment le jeu les a motivés à parler pour la première fois. On a aussi des gens qui nous ont dit qu'ils allaient s'engager dans des associations suite au jeu. C'est vraiment impressionnant.
Paris réussit donc pour ce jeu qui ne cherche jamais à choquer, mais parle subtilement de guérison.
Il y avait un truc que je craignais un petit peu, c'était qu'avec Wednesdays, des gens nous contactent pour nous demander de l'aide en fait. Et j'avais peur qu'on puisse pas forcément aider. Ça n'est pas arrivé ça en l'occurrence. Par contre, je m'attendais pas à ce qu'on ait juste des messages de gens qui nous remercient. Ça fait énormément plaisir parce que ça te fait se rendre compte qu'on voilà, on a vraiment pas fait ça pour rien. On a fait un jeu qui est beau et qui j'espère est un bon jeu, mais on réussit à faire un peu le bien autour de nous. Et c'est un peu peut-être naïf et prétentieux de le dire comme ça, mais c'est un peu l'impression que ça donne.
Les créateurs de Wednesdays espèrent toucher le cœur de nombreux autres joueurs et participer ainsi à lever le tabou de l'inceste.
Et ce jeu est gratuit jusqu'à demain soir à l'occasion de cette journée internationale des droits des enfants à retrouver sur les plateformes Steam et itch.io. Et puis Gaël Ficou de retour, Romain Ntamack reconduit, Fabien Galthié mis sur la continuité. Le sélectionneur du 15 de France vient de dévoiler la liste des Bleus qui affronteront l'Australie samedi prochain. Match en conclusion de la tournée d'automne. Voilà qui nous permet de quitter le studio de France Inter pour retrouver la forêt du Tarn avec vous Jérôme Cadet et vos invités.
Parler de rugby avant de venir dans le Tarn, c'est parfait. Merci Céline Asselot. Dans un instant, la météo et puis effectivement, notre émission spéciale au cœur de la forêt en direct du Tarn. À tout de suite.
Houston, ça y est, on a la solution contre la hausse des prix. Pas besoin d'aller sur la Lune pour protéger son pouvoir d'achat.
Découvrez Bleu Blanc Paye, les e-cartes qui protègent votre pouvoir d'achat. Bleu Blanc Paye, votre garantie anti-inflation. Rendez-vous sur bleublanc-paye.fr. Remboursement sur la base du taux d'inflation INSEE-IPC activable uniquement le jour anniversaire de la date de votre premier achat d'e-carte. Voir conditions sur bleublanc-paye.fr.
Écouter la radio en DAB+, c'est avoir plus de stations avec une qualité optimale. Pour en profiter à la maison, est-ce que c'est compliqué? Premièrement, il vous faut avoir une radio compatible DAB+. Deuxièmement, vous allumez votre radio DAB+ et c'est tout. Alors vous attendez quoi pour passer au DAB+? Plus d'infos sur ensemble-pour-le-dab-plus.fr.
DAB+.
Trois lettres pour une révolution de la radio. Et pour les fêtes, si vous cherchez une bonne idée cadeau, offrez une radio DAB+.
Par amour du sport, c'est le livre événement de Tony Estanguet. Des coulisses de la candidature à la magie de la cérémonie d'ouverture, Tony Estanguet dévoile 10 ans de passion au service d'un rêve, les Jeux de Paris 2024. Par amour du sport de Tony Estanguet, une incroyable aventure humaine, un livre aux éditions Calman Lévy.
Le 13-14, Jérôme Cadet.
Nous parlerons de météo un tout petit peu plus tard sur France Inter. On va rentrer directement dans le vif du sujet dans ce 13-14 sur le terrain pour parler de la forêt. Donc, nous sommes en direct du département du Tarn. La forêt, c'est l'un des enjeux de la conférence sur le climat qui doit s'achever demain au Brésil, à Belém. Voilà pourquoi nous sommes ici aujourd'hui. Donc, pour comprendre comment nos forêts peuvent s'adapter au changement climatique. Ont-elles besoin de l'homme pour cela? D'ailleurs, c'est une autre question. Et puis dans ce contexte de réchauffement, comment continuer d'exploiter cette forêt? Il y a beaucoup d'entreprises, des scieries par exemple ici, qui vivent de ce bois. Nous nous sommes donc installés à la Bastide de Rouyroux, sur les hauteurs de cette commune, dans l'est du département du Tarn, tout près de l'Hérault, avec en face de nous la montagne noire, un petit peu blanchie par le givre de la nuit. On nous annonçait quelques chutes de neige pour ce matin, ce sera sans doute pour plus tard. Je vous présente nos invités qui ont accepté d'échanger dehors dans le froid. Vous me direz, ils ont l'habitude. Ils passent leur journée en forêt au contact des éléments. Philippe Lavillorex, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Directeur de l'Office national des forêts dans quatre départements. L'Aveyron, le Lot, le Tarn-et-Garonne et le Tarn. L'ONF qui s'occupe des forêts publiques, c'est ça?
Oui, donc effectivement, l'établissement ONF, c'est l'opérateur unique de l'État qui... assure la gestion des forêts domaniales et des forêts communales.
Vous avez une autre vie, Philippe Lavillorex, toujours dans le bois. Vous connaissez toute la filière, vous?
Oui, bon, j'ai effectivement quelques années dans la filière bois. Donc j'ai commencé effectivement mon activité professionnelle dans l'industrie papier. Ensuite, dans la première transformation, une petite expérience à l'international où j'ai vécu 3 années au Canada. Et une partie aussi dans gestion de la forêt privée. Dans une coopérative forestière.
Donc on aura plein de questions à vous poser sur tous ces aspects. Vous parliez de forêt publique, Philippe Lavillorex. La forêt privée, c'est votre domaine. Magali Maviel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes technicienne forestière territoriale pour le CRPF, c'est le Centre Régional de la Propriété Forestière. Vous travaillez aussi pour le département santé de la forêt. Vous connaissez bien l'endroit où on se trouve, Magali Maviel? Oui. Vous venez souvent ici?
Oui, c'est mon secteur d'activité principal. Voilà, donc je rencontre les propriétaires du coin des Monts de la Cône là, et de la Montagne Noire pour les conseiller.
Il y a beaucoup de propriétaires privés dans le Tarn.
Dans le Tarn, 40 000
propriétaires. 40 000 propriétaires privés. C'est dire le nombre d'interlocuteurs aussi que vous pouvez avoir. C'est une particularité.
On ne les connaît pas tous.
Attends, je comprends bien. Mais vous connaissez celui qui est en face de vous.
Oui.
C'est Mathias Bonneau. Mathias, vous étiez avec nous en ouverture de ce 13-14 tout à l'heure. Vous exploitez la forêt familiale du Passette, pas très loin d'ici, 50 hectares d'épicéa plantés par votre grand-père. Vous êtes forestier, on va aller dans votre forêt dans quelques minutes. On écoutera aussi des jeunes qui se préparent à ce dur et beau métier. Des arbres qui partent ensuite dans des scieries comme la vôtre, Laure Ferré, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous avez repris la scierie familiale à Lavore, de l'autre côté du département, plus près de Toulouse. Vous êtes 6 à y travailler et vous ne vous destinez, mais alors pas du tout, à diriger une scierie au départ.
Non, pas du tout. Mes parents n'avaient pas prévu de me donner la scierie et du coup, c'était un petit challenge. Et puis d'essayer de travailler avec des bois locaux, donc c'est travailler dans la filière bois, quoi.
Vous nous expliquerez ce qui vous a amené à reprendre cette scierie familiale et quel est l'esprit aussi qui vous anime. Je salue également Célia Quiré. Bonjour Célia.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
Journaliste au service Sciences, Santé, Environnement de France Inter. Vous allez notamment nous parler d'un projet d'agrandissement de scierie contesté ici dans l'un de vos reportages parce que cette question des forêts suscite beaucoup de débats et parfois de fortes tensions. D'abord partons en forêt. Pour mesurer les dégâts, j'en parlais que cause le réchauffement climatique avec la prolifération de ces insectes, les scolytes qui attaquent les résineux. Ça a commencé dans l'est de la France, la forêt des Vosges, mais cet insecte est désormais bien présent ici. Mathias Bonneau, nous nous sommes rendus ensemble hier dans votre forêt pour constater les dégâts.
Et donc ici on est au centre d'une attaque de typographes, on peut aussi dire bostriche ou scolytes. Et on les voit en train de dévorer ces arbres qui sont devant nous. Celui de gauche, il est déjà mort, on voit qu'il est rouge jusqu'en haut. Mais celui de droite, il est encore vivant, les branches sont vertes. Mais par contre, il a déjà plus d'écorce. Donc ça, c'est des arbres qui sont, à la fin de l'hiver, ils sont tout secs.
Vous pouvez nous raconter ce à quoi vous avez fait face il y a 3 ans, à l'été 2022?
Ce qui était impressionnant, c'est qu'il a fait très chaud et dès le printemps. Il s'est mis à faire chaud au mois de juillet, il s'est mis à faire des chaleurs caniculaires. Et des attaques de typographes comme celle-ci, il y en avait un peu partout dans la forêt. Et là, je me suis dit, ça va être vraiment violent. Et ouais, j'ai eu peur. Puis je pense que c'est un peu la première fois que je voyais une attaque de scolytes de cette ampleur. Et donc, j'ai clairement eu peur pour l'état de la forêt. Mais finalement, on le voit autour de nous, la forêt s'en est remis.
Il y a 3 ans, il vous a fallu abattre beaucoup pour essayer de contenir la progression.
Alors, c'est ce que j'ai tenté de faire. En fait, quand les insectes étaient dans l'arbre, j'ai abattu les arbres pour essayer d'aller broyer l'écorce, pour broyer les insectes et pour en limiter le nombre. Maintenant, je me rends compte que ça a quand même un effet très limité, parce qu'en fait, c'est des insectes qui volent et ils se baladent de forêt en forêt. Donc, c'est pas mes petits coups de tronçonneuse qui vont aider à grand chose. Ce que j'ai compris surtout, c'est qu'il y a des prédateurs naturels qui sont plus nombreux et plus efficaces que moi. On peut citer le pic, l'oiseau qui vient décoller l'écorce.
Et il y a aussi.
Il y a d'autres insectes qui s'appelle le clairon des fourmis, qui est un autre coléoptère qui est absolument très gracieux.
On craint quand même qu'il se développe et qu'il y en ait de plus en plus de ces attaques avec le réchauffement climatique.
On a planté des épicéas, un endroit où ils sont pas... Déjà, ils n'étaient pas trop adaptés. Il n'y avait pas d'épicéas avant ici.
C'est trop bas ?
On est trop bas en latitude. Normalement, ils sont dans les forêts du Nord, quoi. On a planté des monocultures. Et trois, il y a le changement climatique qui est arrivé par-dessus et qui fait que, effectivement, des forêts comme ici sont complètement menacées de disparaître. Mais la grande question, c'est de savoir quand et comment elles vont disparaître. Et ça, moi, je pense qu'on le sait pas. Et entre-temps, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on on anticipe vis-à-vis de nos peurs ou est-ce qu'on essaye de faire avec ce qu'on a? Moi, tant qu'il y a des arbres debout, ben, je les garde et je vous fais confiance.
Ça fait beaucoup de questions avant d'y répondre. Sur le constat, Magali Maviel, le massif est malade?
Le massif est pas forcément...
Alors, allez-y. Mais... Est-ce que le massif est malade? On ne vous a pas entendu.
Le massif est malade, c'est un grand mot, mais il n'est pas en très très bonne santé, effectivement. Il y a plusieurs problèmes.
Alors, est-ce qu'on peut redonner... voilà, on va vous redonner ce micro-là. En quelle santé est le massif, Magali Maviel?
Donc, le massif est... est affecté effectivement par le changement climatique. Dire qu'il est complètement malade, c'est peut-être faire un petit peu peur. Allez, mais effectivement, ouais. Il a de nombreuses faiblesses.
La cause principale, c'est le réchauffement climatique aujourd'hui?
C'est principalement le réchauffement climatique qui a fragilisé les écosystèmes en place, qui avaient peut-être quelques défaillances déjà, effectivement.
Et sur le constat que faisait Mathias, des épicéas qui sont attaqués, mais aussi parce que on les a plantés ici alors que c'était pas leur milieu naturel, si je puis dire.
Oui, ben ça, on est unanime sur le sujet. C'est une essence qui a été introduite localement, un petit peu trop bas en altitude par moment, un petit peu trop bas en latitude aussi. Et du coup, c'est une espèce qui est assez stressée et qui, depuis 2003 en fait, hein, parce que les premiers signes pour nous du réchauffement climatique, c'est plutôt 2003, avec une succession d'épisodes qui n'ont pas été bien plus favorables. 2005 était une mauvaise année aussi, 2009, 2010, 2011, il y en a eu beaucoup. Et en fait, comme tout organisme vivant, le cumul des stress
cause de gros problèmes, en fait.
Vous le constatez aussi dans les forêts que vous gérez à l'ONF, Philippe Lavillerex ?
Oui, effectivement, on fait exactement le même constat. C'est-à-dire que on a des essences qui, aujourd'hui, sont plus en station. Enfin, c'est un fait nouveau, hein. On constate ça depuis quelques années. Et la succession d'années... historiquement déficitaire en eau, ouais, sur la période estivale, la succession fait que aujourd'hui on constate des signes de dépérissement. Donc effectivement, on va être amené à réfléchir. On est déjà dans cette,
ouais,
réflexion.
Vous réfléchissez déjà. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut diversifier les essences. C'est l'une des réponses.
Alors ça peut être. C'est aussi une solution qui est envisagée. Mais
qu'est-ce que vous faites?
Dans un premier temps, là, on fait des études de très très poussées. On sollicite nos bureaux d'études, nos aménagistes et puis tous les spécialistes. On fait des études sur l'effet stationnel, quelle est la situation climatique actuelle. On utilise des outils qui sont en possession de l'ONF, qui vont nous permettre de faire des simulations plus ou moins pessimistes sur
plus
le long
degré,
terme.
Plus 1 degré, plus 2 degrés, qu'est-ce que ça change pour les arbres,
voilà,
à quelle altitude.
C'est exactement ça, et à partir de toutes ces données synthétisées, on a un outil qui s'appelle Climessence, qui va nous orienter et qui va nous amener sur des schémas qui vont nous spécifier les essences potentiellement adaptées.
Mais est-ce que vous avez déjà commencé à diversifier ou pas?
Oui. C'est,
et qu'est-ce que vous plantez?
Donc là, on est en train d'installer des chaînes qui ont des origines plus méditerranéennes. Et donc là, on fait des tests en forêt domaniale de Grésine, par exemple. On installe des pins qui sont effectivement qui vont venir en remplacement d'autres résineux, qui sont plus résistants à ces phénomènes de sécheresse. Donc on est vraiment déjà depuis quelques années sur cette réflexion, mais on a de nouveaux outils qui nous permettent d'affiner nos études, nos analyses et de basculer sur des schémas plus résilients, quoi.
Magali Maviel, vous incitez les propriétaires privés, parce que vous étudiez leurs plans de coupe, hein, quand ils doivent couper, ils passent par vous. Vous les incitez à replanter avec du pin, avec du chêne?
Alors oui, on va à peu près dans la même direction. On propose des essences plus résistantes, mais surtout, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on n'a pas une seule solution. Ce qu'on cherche à faire dans nos conseils, c'est à proposer aux propriétaires de limiter les risques. Et limiter les risques, c'est ne pas mettre tous les œufs dans le même panier. Donc c'est introduire des nouvelles essences éventuellement, mais c'est aussi des fois gérer
différemment. Ce qu'on appelle la monoculture, ne pas planter la même essence.
Oui, alors ça, le discours pour les forestiers, il existe depuis longtemps. Ouais. Hein, les mélanges, c'est la base d'une forêt plus résiliente. Et après, c'est dans les méthodes sylvicoles aussi qu'on peut s'adapter. Ne pas intervenir violemment dans une forêt, c'est aussi se laisser la possibilité d'avoir une plus large manœuvre derrière. Quoi.
Mathias Bonneau, on l'a entendu à l'instant, vous me disiez en 2022, moi j'ai coupé pour éviter que les scolytes se propagent. Est-ce que vous referiez la même chose aujourd'hui? Vous avez évolué dans votre réflexion depuis?
Oui, je pense qu'effectivement, je vivais en 2022, j'avais vécu cette première grosse attaque qui m'a fait un peu peur, j'ai un peu perdu les pédales dans cette histoire-là, mais enfin... dans de manière mesurée, je veux dire. Mais effectivement, depuis, en fait, et puis aussi en coupant ces arbres-là, j'ai compris effectivement le cycle de vie du scolyte. J'ai aussi compris qu'il y avait des prédateurs. J'ai compris que la forêt, elle avait des outils pour répondre et qu'il fallait aussi un peu lui faire confiance à la forêt, qu'elle avait des armes.
Et diversifier, vous le faites. Vous vous dites finalement, mes épicéas, ils sont quand même résistants.
C'est compliqué, ouais. J'ai envie de leur faire confiance. Effectivement, moi j'ai grandi avec l'idée que on m'a toujours dit les épicéas sont pas adaptés, ils sont pas adaptés. Et ça c'était il y a 20 ans. Et aujourd'hui on est 20 ans plus tard, ils sont toujours là. Donc j'ai envie d'y croire encore un peu. Et puis surtout, en fait, tant qu'il y a des arbres debout, ça fait une ombre au sol, ça fait une ambiance forestière. Et cette ambiance forestière, je pense que c'est ce qu'on a de plus précieux sur ces parcelles. Et ça, je pense que c'est une vraie force, mais on plante aussi.
Prendre soin de cette forêt, c'est aussi, on en a un peu parlé déjà, corriger les erreurs du passé. Célia Quiré, on vous retrouve. Vous allez nous emmener maintenant un petit peu plus haut, hein, c'est dans les monts de Lacône, au-dessus de Brassac, 1000 mètres d'altitude. L'ONF, il restaure des tourbières.
Oui, je vous emmène dans la forêt de Lacône. C'est effectivement sur des hauts plateaux avec Geoffrey Guéraud de l'Office National des Forêts, direction la tourbière de Martinoux. Elle avait été asséchée à cause des erreurs du passé. Avant, on les drainait, ces tourbières, pour enlever l'eau, planter des forêts à la place. Aujourd'hui, c'est tout le contraire, il faut les faire revivre.
Aujourd'hui, on se rend compte avec le réchauffement climatique que conserver l'eau localement et la capacité qu'a une tourbière à également stocker du carbone, il faut à tout prix qu'on les restaure. La première des actions, ça va être de conserver l'eau localement. Enfin, on bouche les drains qui ont été faits par le passé. Et que la tourbière retrouve sa fonction un peu d'éponge, quoi.
Il faut aussi enlever les arbres qui ont colonisé le milieu, car cette tourbière est précieuse pour les forêts tout autour.
Elle va avoir une capacité de rétention en eau et pouvoir la restituer en période estivale dans les bassins versants, dans les ruisseaux en aval. Potentiellement, il y a un microclimat autour dans cette forêt qui se forme et qui permet de diminuer les températures estivales qu'il peut y avoir.
Et ici, des épicéas sont morts à cause du réchauffement. Ce responsable de l'ONF essaie de les sauver, mais il faut diversifier. Donc là, il y a des petits épicéas qui poussent, c'est ça?
Oui. Il nous reste des vestiges de ces peuplements grâce à de la régénération naturelle qui est arrivée spontanément, la régénération naturelle d'épicéas, qu'on a voulu conserver à tout prix pour aussi donner une chance à l'espèce de s'adapter à ce réchauffement. Donc les petits ont germé et poussent avec un climat un peu différent de ce que les parents ont connu. On espère qu'il y aura une adaptation de cette espèce.
Et donc ce microclimat, Jérôme, est bon pour la forêt. L'ONF a l'espoir que cette forêt revive malgré les pics de chaleur. C'est un pari.
Ouais, c'est un pari, Philippe Lavillorex. C'est difficile de savoir vers quoi on va, au fond, et de prendre des décisions maintenant, parce que rien n'est écrit.
Oui, tout à fait. On a effectivement l'enjeu est colossal, mais on a quand même des outils qui nous permettent d'analyser les contextes forestiers et de réaliser des projections dans le temps. Donc ça passe par effectivement l'association d'essence, le changement d'essence, des modifications en termes d'itinéraire sylvicole. Donc on réfléchit à toutes ces possibilités, mais je pense qu'on est armé pour répondre à la problématique climatique et au changement climatique.
Nos forêts, elles sont victimes du changement climatique, elles sont aussi un atout. Magali Maviel, les forêts, elles captent du carbone.
Oui, elles captent du carbone dans le bois, elles captent aussi du carbone dans le sol. Ça, on n'en parle pas souvent, mais en fait, le stockage...
C'est-à-dire...
Le stockage du carbone dans les sols forestiers, il est très important, puisque c'est des milieux qui ne sont pas bouleversés. Et du coup, plus un peuplement va être âgé, plus il aura stocké de carbone et dans le sol et dans le bois.
Ce sont les feuillus, ce sont les conifères qui captent le plus de carbone. Quels sont les plus efficaces?
Je sais pas répondre.
Vous savez pas répondre à cette question.
C'est lié au volume de bois produit, je pense, hein, et à la quantité de photosynthèse effectuée. Donc je sais pas si on peut faire une opposition ou une comparaison feuillus-résineux. C'est d'individu à individu.
En tout cas, cette forêt, elle progresse en France, Philippe Lavillorex.
Oui, tout à fait. On observe en l'espace d'une centaine d'années, on avait 18% de couverture forestière sur le territoire. Aujourd'hui, on est à 32%. Donc les surfaces sont considérables forestières. Et en parallèle, hein, on ne prélève pas l'accroissement annuel. Donc on peut dire que
on prélève moins que la forêt ne progresse en France chaque année.
Tout à fait, de produits de bois. Donc on est en stockage de le volume augmente sur pied et la surface, donc c'est très positif. On est dans une bonne dynamique et dans une belle dans une bonne gestion forestière.
Alors le prélèvement, justement, on va retourner dans votre forêt, Mathias, la forêt du Passet, ces épicéas plantés par votre grand-père il y a 60 ans, forêt que vous exploitez aujourd'hui. Tout à l'heure, nous étions devant des arbres morts, mangés par les scolytes. Eh bien, vous allez abattre l'un d'entre eux, scène tournée hier après-midi.
Alors, première étape, on va tout nettoyer. Si on trébuche, c'est une tronçonneuse en marche, c'est pénible. Voilà, donc là on est déjà au niveau propre. C'est là qu'on commence à déjà voir comment il est fait l'arbre. C'est-à-dire qu'on regarde la cime, où est-ce qu'elle penche, un peu sur la gauche. Donc ça veut dire qu'il faudra viser un peu plus à droite que l'endroit où on veut qu'il tombe.
Maintenant, je vais faire tout le tour par derrière. Je vais couper tout le reste du bois en laissant une deux bandes de bois qui fait que l'arbre va basculer. Je vous dirai quand ça tombe.
Hop, hop.
Exactement là où on avait dit.
Est-ce que c'est paradoxal, Mathias, d'abattre des arbres quand on aime les arbres comme vous les aimez?
Question piège juste après l'avoir fait. En fait, là, je sais pourquoi je suis là. J'ai réfléchi avant. Je sais quelle vision de forêt j'ai. En plus, celui-là, il était déjà mort, donc j'ai pas de regrets. Mais dans cette zone-là, l'année prochaine, je vais venir planter. Il y a déjà ces plantations-là qui sont dans le grillage là-bas. C'est des Douglas que j'ai plantées, c'était en 2023. Il y avait déjà eu un petit rond de scolite à cet endroit-là, qu'on a déjà replanté. Et donc, c'est des arbres qui se portent à merveille et qui sont déjà prêts. Cette lumière-là que je viens d'amener en coupant cet arbre-là, elle va leur profiter à eux. Donc, en fait, dans ma tête, je suis pas du tout en train de mettre fin à quelque chose. Je participe à un mouvement forestier.
Vous voyez que ça bouillonne sous le casque des forestiers. On l'entend, Laure Ferré, c'est physique. Ces métiers du bois sont des métiers physiques, il peut y avoir peut-être une relation charnelle avec cette matière. C'est aussi une dimension importante pour vous qui avez repris la scierie familiale, ce rapport au bois.
Oui, c'est vrai que c'est un des métiers de terre et de matière et qu'on peut. On est un maillon, la scierie, dans une chaîne, donc bon, il y a un rapport au bois qui est important, quoi, et de savoir d'où il vient et comment sont gérées les forêts, c'est important dans la continuité, quoi.
D'où il vient, c'est-à-dire que ça vous arrive d'aller sur place, d'aller dans les forêts, de voir d'où vient le bois que ensuite vous allez travailler à la scierie?
Oui, ça m'arrive d'aller en forêt, notamment avec Mathias, et j'ai beaucoup appris avec lui d'ailleurs. Et je trouve que c'est important parce que c'est vrai qu'on fait le lien à la scierie entre la forêt et le client qui vient juste après, donc le charpentier. Donc c'est important de savoir d'où viennent les bois et où ils vont. Donc.
Justement, quels sont vos clients? Quel bois vous travaillez déjà et puis qu'est-ce qu'ils deviennent ensuite?
Du coup, on travaille le Douglas, donc qui vient de la montagne noire principalement.
En face de nous?
Oui. Et donc les principaux clients sont des charpentiers et pas mal de particuliers aussi.
Donc votre bois termine en charpente,
oui. Oui.
C'est cela. Et vous, Mathias, qu'est-ce qui devient le bois de la forêt du Passette?
Bah quand c'est des Douglas, ça part aussi en charpente, ouais. mais pour ce qui est des épicéas, on travaille avec une scierie qui s'appelle la scierie européenne des bois, qui est dans la vallée. Et ça, c'est plutôt des marchés de caisseries, de palettes.
Caisseries et palettes pour ces épicéas. La filière bois en France, c'est 418 000 emplois, 60 000 entreprises. Parmi ces leaders, il y a le groupe Siat. C'est une entreprise familiale au départ. Elle a été créée il y a 200 ans en Alsace. Et ce groupe Siat s'est installé ici, dans le département du Tarn, avec deux scieries rachetées ces dernières années, dont celle de Brassac. Elle veut l'agrandir, cette scierie, sur 30 hectares, pour produire 3 fois plus de bois. Elle veut même construire une usine de cogénération pour vendre de l'électricité. Vous allez nous expliquer, Célia Kiré, ce que c'est que la cogénération, puisque vous vous êtes rendu sur place ces derniers jours et vous avez rencontré des habitants inquiets.
Oui, et ils se mobilisent. Je suis allée faire le tour de la scierie actuelle avec Georges et Maggie Sablerol. Ils habitent juste à côté. On l'entend, la scierie fait déjà du bruit, les sciures s'envolent. Mais là, si elle augmente, 90 camions passeront chaque jour devant chez eux. On entend les machines, en tout cas.
On entend les machines, oui. C'est un projet démesuré. Pour quelle raison? Le gigantisme. On va exploiter d'une manière industrielle la forêt.
Est-ce qu'ils vont réussir à avoir suffisamment de matières premières pour faire tourner une entreprise comme ça? Ça va obliger à faire des coupes, ça c'est clair.
Et des coupes, c'est-à-dire des trous dans la forêt, on en voit tout autour de Brassac. Pour France Nature Environnement, Emmanuel Forichon a déjà déposé un recours contre le projet.
Il est déjà écrit dans le plan d'approvisionnement d'aller chercher du bois sur toute l'Occitanie et même au-delà, puisqu'il irait vers la Corrèze, vers le Cantal. La forêt, elle est aussi faite pour réguler le climat et améliorer les ressources en eau, protéger les sols. Elle n'est pas faite que pour produire du bois.
Et tout cela pour une usine de biomasse, vous le disiez Jérôme, pour brûler le bois en partie, c'est ça la cogénération. Sébastien Deliot ne veut pas respirer un air pollué.
Le fait de brûler, l'ordre de grandeur, ce sera dans un premier temps 100 000 mètres cubes de bois par an, va générer des fumées avec des émanations, même filtrées, il restera toujours quelque chose qui ressortira, et donc une imprégnation, une contamination chronique tout aux alentours.
À ses côtés, Fabienne Castelin, apicultrice, s'inquiète, elle, à cause des pesticides utilisés pour traiter le bois.
On est en zone Natura 2000, c'est le parc naturel régional du Haut-Languedoc. Moi, la forêt, j'y tiens vraiment parce que c'est aussi une source de nectar pour les abeilles. Les coupes sont énormes, je traverse la forêt pour rentrer chez moi. Et effectivement, il y a des containers entiers de bois qui partent et qui sont traités sur place. Ça, c'est aussi une des inquiétudes pour mes abeilles.
Alors, l'entreprise n'a pas souhaité répondre pour ce reportage, mais je suis allée voir un adjoint au maire de Brassac, Lucien Biot.
Certes, oui, c'est un projet qui est assez gigantesque, mais un projet qui crée une centaine d'emplois, ce n'est pas négligeable pour la région de Brassac, c'est énorme même.
Mais cet élu attend de voir aussi les résultats de l'enquête environnementale. Les travaux pourraient commencer dans un an.
Voilà pour ce reportage, Célia. On l'entend à votre micro à Brassac, le climat est tendu. Hier, nous avons rencontré Thibaut Delessal. Il est entrepreneur de travaux forestiers à Lacône. Il a 9 salariés et il déplore aujourd'hui la mauvaise image de la filière.
La compréhension de notre métier aujourd'hui, elle est très difficile. On a un désamour de la société civile à notre égard. Finalement, on est la vitrine d'une filière qui est méconnue et un petit peu désavouée par le grand public. On nous reproche de couper forcément tous les arbres, on nous reproche même des fois de couper même en éclaircie hein, quand on coupe pas tout. Donc du coup on a des insultes, on a de la dégradation, on a du matériel brûlé, du matériel caillassé, dégradé, volé. Et nous on est obligé de faire appel à des sociétés de télésurveillance pour surveiller le matériel. Il y a 25 ans je pense que le métier était un petit peu différent, on était sur d'autres générations, sur d'autres usages. Peut-être pas les mêmes degrés de formation des acteurs. Et puis on a aussi, nous, une volonté d'écouter les besoins du public qui est aussi un usager de la forêt. On n'oublie pas que c'est un lieu de promenade et de partage. Je pense qu'il y a un respect du milieu qui est quand même plus le même qu'il y a 25 ans et c'est lié aussi à la formation et aux prises de conscience.
Témoignage de Thibaut Delessal, entrepreneur de travaux forestiers. Mathias Bonneau, vous qui êtes en forêt tous les jours, vous constatez cette tension, cette crispation autour de ce sujet ?
Oui, on la sent. On sent bien que tout le monde est un peu tendu. Après, moi, j'avoue que je suis plutôt épargné parce que j'ai pas des grosses machines. Je fais plutôt des petites coupes. Mais c'est vrai que j'ai un collègue qui s'est fait voler ses tronçonneuses là dans son tracteur il y a 2 semaines. Mais en tout cas, là, ce témoignage qu'il dit, c'est très violent. C'est quelque chose qu'on peut souhaiter à personne. Et moi, ce qui me rend triste surtout, c'est que, en fait, c'est le signe d'un dialogue qui n'existe plus entre deux bords, quoi. Donc ça, je trouve ça triste.
On essaye de le renouer justement ce dialogue. Parmi les choses qui ont beaucoup, les pratiques qui ont beaucoup choqué, on l'a entendu d'ailleurs dans votre reportage, Célia. Et je voulais avoir votre sentiment, Philippe Lavillorex, vous qui êtes le directeur interdépartemental de l'ONF. Il y a les coupes rases, ces parcelles entières, plusieurs hectares d'arbres coupés sans que les jeunes pousses ne soient installées. Est-ce que vous procédez à ce type de coupe à l'ONF ?
C'est pas systématique. On arrive effectivement dans quelques schémas d'exploitation où le cycle de d'exploitation de certains peuplements, c'est la méthode qui est aujourd'hui préconisée parce qu'on n'arrive pas à régénérer naturellement ces peuplements. Donc on arrive dans des cycles de
pourquoi on n'arrive pas naturellement à les régénérer?
Parce que les sols les stations ne permettent pas la régénération naturelle. C'est le cas par exemple sur le l'épicéa, quelquefois sur le Douglas. On a des essences où ce sont pas du tout adaptées. Vous prenez par exemple la sapinière ou la chênaie, où effectivement les hêtraies également, on les conduit de façon en régénération naturelle. Donc on va accompagner ces peuplements. On arrive rarement à cette phase de coupe rase parce que on a réussi à anticiper ce cycle de régénération. Mais
ça peut arriver. Même si on sait que c'est mauvais pour la biodiversité et que ça favorise l'érosion aussi.
C'est le cycle de vie de certains peuplements.
Magali Maviel, est-ce que ce sont des vous qui donnez votre avis sur les coupes des propriétaires privés, est-ce que ce sont des pratiques courantes? Est-ce que vous mettez en garde les propriétaires privés? Qu'est-ce que vous préconisez, vous, dans ces cas-là?
Alors, on ne préconise jamais la même chose, chaque cas est différent. Bien entendu que la coupe rase fait partie des outils que l'on a pour gérer la forêt. Maintenant, compte tenu des évolutions du climat et de tout un tas de problèmes de problématiques sanitaires, on est de choix de propriétaires aussi, hein, parce qu'il y a des choix des propriétaires qui comptent énormément. On ne conseille pas systématiquement, enfin, on ne conseille jamais la même chose en fait. Toutes les forêts sont différentes, tous les propriétaires sont différents, toutes les stations forestières, ce qu'on appelle la station forestière, c'est l'environnement dans lequel pousse le peuplement, sont différents. Donc il n'y a jamais une seule solution possible, il y en a plusieurs, et c'est la somme de l'objectif du propriétaire, la somme des attentes, la somme du potentiel du peuplement qui fait qu'on trouve des solutions. Mais il n'y a pas de, il doit pas y avoir de dogme en fait. On a plusieurs outils dans notre boîte, il faut tout utiliser.
Philippe Lavillorex, très vite.
Si on prend l'exemple de toutes ces parcelles qui sont scolytées, effectivement, on ouvre les paysages, on est obligé d'exploiter ces bois, donc ça réalise, on réalise effectivement des coupes rases assez conséquentes. Mais c'est-à-dire
que vous dites qu'il y a quelques arbres où il y a du scolyte,
c'est pas systématique. Non, on peut exploiter simplement la zone scolytée, et préserver les arbres et essayer de faire en sorte qu'on conduise les peuplements, on mélange des sens. Donc on le fait systématiquement. C'est ce que vous avez vu hier à la cône où effectivement on préserve la régénération naturelle, on va associer notre essence objective et on va conduire ces peuplements à travers le temps sur un schéma différent quoi.
Mathias Bonneau, Philippe Lavillorex nous dit des fois il n'y a pas le choix, voilà, il faut les faire ces coupes rases, ça fait partie des pratiques forestières au fond qui sont à notre disposition. Qu'est-ce que vous en pensez, vous le forestier?
Mon père a fait ce test. Il y avait une zone qui était malade. Il l'a rasé. Ça a été un enfer. Et du coup, il a dit, plus jamais ça. Et donc.
Pourquoi ça a été un enfer?
Parce que les plantations n'ont pas poussé. Ça a coûté un bras derrière. Puis derrière,
quand vous avez replanté derrière, ça n'a pas fonctionné.
Oui, ça a mal. Oui, voilà. Ça a été attaqué par des chevreuils, par d'autres insectes. Puis en fait, au bout de 20 ans, tu te retrouves. T'as une forêt. C'est même pas une forêt. C'est des petits arbres. Donc c'est un peu triste. Et à côté de cette parcelle que mon père a rasée, il y a une parcelle qu'il a décidé de pas raser, parce que sa décision a été de ne plus jamais faire ça. Et moi, je suis né avec cette idée-là, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai pas le choix. Ce que je veux dire, c'est que la coupe rase n'est jamais une option. Je trouve des solutions pour ne jamais couper à blanc. Et donc, dans ces forêts qu'on n'a pas rasées, on voit que ça se régénère, que les arbres, il y a des individus résistants qui émergent et tout ça. Et c'est des cadeaux magnifiques que la forêt nous offre.
On a parlé de ce projet du groupe Siat à Brassac. Laure Ferré, vous dirigez une scierie, vous aussi. Alors pas de la même dimension.
Non, pas du tout.
À Lavaure, comment vous regardez ce projet?
Moi, ça m'impressionne. C'est méga scierie, donc j'ai peur de l'impact que ça aura sur les forêts et puis sur les prix aussi. Des bois qui nous, pour les petites scieries, c'est toujours plus compliqué de gérer les prix et de s'approvisionner, quoi.
Oui, de s'approvisionner. C'est-à-dire que vous pensez qu'ils vont payer plus cher aux propriétaires
Je pense qu'il y aura de la concurrence, il y aura plus de concurrence, oui.
Est-ce que c'est déjà le cas?
On sent un petit peu qu'il y a de la pression, oui.
Ça veut dire que vous arrivez pour faire une offre à un propriétaire et peut-être un autre groupe comme celui-là arrive.
Oui, c'est pas vraiment comme ça que ça se passe, mais il y a quand même, on sent qu'il y a une pression sur les approvisionnements, quoi.
Ouais, en ce moment.
Oui.
Il y a une grosse demande de bois.
De grume ou en charpente?
Faut d'abord dire ce qu'est un grume.
La grume, c'est
la grume.
Ouais. C'est le bois qu'on reçoit en 15 mètres, et nous après on rebillonne en scierie pour faire les débits de charpente.
Ma question portait effectivement sur les grumes. Est-ce qu'il y a une grosse demande, une grosse concurrence?
Oui. Ouais.
Au fond, la question, Philippe Lavillorex, c'est de savoir jusqu'où on peut demander à la forêt de produire, jusqu'où on peut aller, quelles limites on se pose dans l'exploitation de cette forêt.
Mais de toute façon, si vous prenez le cas des forêts domaniales et des forêts communales, toutes les forêts sont protégées par des documents de gestion.
Ouais.
Donc le document de gestion, il est rédigé par les services de l'Office national des forêts. Ces documents sont soumis et validés par le ministère de l'Agriculture. Donc en aucun cas, ça va modifier la mobilisation des volumes sur la durée. On suit un programme de coupe et travaux. Donc il n'y aura pas de mobilisation supplémentaire, de volume supplémentaire.
Vous produisez davantage, vous, depuis quelques années, sur les quatre départements?
Non, absolument pas.
Le volume vendu est le même?
Le volume est assez constant dans nos gestions de forêt domaniale, forêt communale, quoi. Alors après, impacté effectivement par l'arrivée du dépérissement, forcément, ça nous a un petit peu accéléré
nos processus. Un volume de bois supplémentaire.
Ouais. Mais qu'on compense, on n'est pas obligé de mobiliser des volumes supplémentaires. Hein. On peut privilégier la récolte de bois de qualité et freiner la récolte de bois frais.
Alors, on l'a dit, travailler sur les forêts, c'est penser sur le temps long. Ça concerne donc les plus jeunes. Il y a 3 lycées forestiers en région Occitanie. L'un d'eux est à quelques kilomètres d'ici, à Saint-Amand-Soult. C'est comme ça qu'on prononce, Saint-Amand-Soult. Nous y avons rencontré Alexandre et Loan.
Ben, moi, je suis arrivé au lycée parce qu'à la base, je voulais faire élagueur grimpeur. On monte aux arbres avec des matériels d'escalade, comme des baudriers, des mousquetons, avec une tronçonneuse. Et on coupe les branches pour élaguer les arbres. Je préfère essayer de reconnaître des arbres, les oiseaux, les champignons, plutôt que de, dans un collège général, rester assis sur une chaise à faire des maths, du français.
Merci Loan. Alexandre, est-ce que tu peux m'expliquer ce que font tes copains là en ce moment?
Eh ben là, ils vont billonner, ils vont fendre du bois pour faire du bois de chauffage.
Ils fendent des billes de bois en fait, c'est ça, à la hache?
Et d'abord, on les coupe en 30 cm ou en 50. Et après, du coup, ils vont les fendre pour que ça rentre dans les poêles plus facilement.
Ben, c'est vraiment la chose qui m'intéresse le plus. Donc c'est vraiment là où je me vois travailler. Plutôt bûcheron ou conducteur d'engins forestier. Ça dépend, ça s'affinera avec le temps.
Est-ce qu'il y a des fois des choses, tu vas en forêt, tu te dis non mais ça c'est pas possible, ou des choses qui te dérangent?
Ah oui, ben il y a plein de choses, il y a les déchets, après il peut y avoir les feux de forêt qui sont causés par l'homme, des choses comme ça. Vraiment, ça préserve pas la forêt, ça la dégrade.
Voilà, témoignage de deux de ces 200 élèves de ce lycée forestier de Saint-Amand-Soult. Très très peu de jeunes femmes parmi ces élèves. Avis et lancé, message passé. Laure, Mathias, qu'est-ce que vous diriez à des jeunes qui ont envie de rentrer dans ces métiers-là? Laure, chez vous, à la Syrie, à Lavore?
Pour moi, c'est un métier passion à la base, quoi. Comme dit Mathias, quand on attrape le virus de la forêt ou du bois, en général, on a du mal à en revenir.
Il y a des emplois, mais qui ne sont pas pourvus.
Oui, je pense qu'on cherche beaucoup de scieurs et en manutention en Syrie. Ouais, je pense qu'il y a besoin de main-d'œuvre.
Mathias, c'est pas le métier que vous avez choisi au départ. Vous êtes revenu vers celui-là. Qu'est-ce que vous diriez à un jeune aujourd'hui? Pour peut-être l'inciter à le faire ou pas, d'ailleurs, je ne sais pas.
Ah, si, il faut le faire. Ouais. Surtout quand on est jeune, quand on a de l'énergie, c'est à ce moment-là qu'il faut le faire. Quitte à ce que ça dure pas toute une carrière, c'est pas obligé, mais en revanche,
c'est dur, c'est physique.
C'est dur, c'est physique. C'est pas très bien payé, c'est pas très bien reconnu. On peut facilement, surtout quand on est jeune, se retrouver dans des situations un peu problématiques. J'ai envie de dire, faut le faire, mais faut être prudent.
Et donc, qu'est-ce qui fait qu'il faut y aller? Parce que là, le tableau est pas forcément extrêmement lumineux.
Non, si, faut le faire. En fait, c'est un métier qui est incroyable, quoi. D'être dans la forêt, il y a une adrénaline constante, un challenge constant, de viser les arbres exactement là où on veut qu'ils tombent. Et ça, c'est un truc qui a pas de prix, quoi. C'est une adrénaline constante et le fait d'être dehors, c'est
beau, tout simplement, comme on l'est là en ce moment dehors avec le soleil au-dessus de nous. Juste avant de se quitter, je voulais faire un petit clin d'œil à un autre métier avec le bois. C'est luthier. Nous sommes rendus à Castres pour rencontrer Anthony Witz, qui fabrique de magnifiques guitares classiques et jazz manouche.
Les bois qu'on utilise dans notre atelier, ça va être le plus traditionnellement noyer, érable, parfois de l'acacia aussi pour sa dureté, ou du robinier, du frêne, du cerisier, du pommier, voilà, beaucoup de fruitiers. Une guitare en palissandre ou en bois exotique ou en ébène n'est pas forcément supérieure à une autre. C'est un mythe qu'il faut déconstruire dans la tête des guitaristes, parce que les luthiers et l'industrie fabriquent les instruments avec du palissandre parce que c'est ce qu'on leur demande. Donc en fait, il y a ce pouvoir-là dans les mains des musiciens de pouvoir nous aider à faire changer un petit peu les codes de cette industrie, et je pense que ce sera pour le mieux.
si les musiciens s'y mettent, on est sauvés. Quelques remerciements avant de se quitter à nos invités. Laure Ferré, ça, Cyrie Alavor, Magali Maviel du CRPF, le Centre Régional, j'ai oublié la suite, mais vous allez me le dire, des propriétaires.
Centre National de la Propriété Forestière.
De la Propriétaire Forestière, Philippe Lavillorex de l'Office National des Forêts, Mathias Bonneau, Bûcheron, c'est aux éditions du Seuil. Remerciements aussi pour l'équipe de France Inter. Guillaume Rialan, notre chargé de production, Martin Troadec, Benjamin Reyes à la technique, notre rédactrice en chef, Cécilia Arbona à la préparation, Camille Poux-Jalaguier, et je n'oublie pas nos hôtes ici à la Bastide Rueroux. Le gîte s'appelle La Bourriotte, Bénédicte et Frédéric. Merci de nous avoir accueillis. Le fil de l'histoire, Stéphanie Duncan à suivre.